En plus ou à la place de l'amende, être condamné à suivre un stage de citoyenneté, amende fixée à 150 euros. L'entrée en vigueur prévue de la loi, c'est le printemps 2011, après une période de 6 mois de médiation et de pédagogie. La Commission européenne souhaite réguler le marché des produits dérivés. Elle va édicter de nouvelles règles, a annoncé le commissaire au marché intérieur, Michel Barnier. Seront visés les CDS, des produits financiers complexes qui protègent contre le risque d'insolvabilité d'un émetteur de dette. Ils sont accusés d'avoir aggravé la crise financière. À Bruxelles, les ministres des Finances de l'Eurogroupe sont réunis depuis 2 minutes, depuis 15 heures, pour tenter de rétablir la confiance des investisseurs. L'euro est en effet à son plus bas depuis 4 ans. Dans le centre de l'Inde, au moins 20 personnes ont été tuées aujourd'hui dans l'explosion d'un bus. Selon certaines sources, il y aurait 2 fois plus de victimes, 40, un attentat qui est attribué par la police aux maoïstes. Une éclaircie dans le ciel européen, les restrictions de vol sont levées à Londres ainsi qu'aux Pays-Bas, mais restent valables en Irlande du Nord ainsi que sur les îles Shetland au nord de l'Écosse.
Rai. GR1.
Les trompettes sud-africaines.
Tous les soirs.
Le symbole du football ici.
Nos reporters vous emmènent en direct sur tous les continents.
La Barack Obama longuement ovationné.
El ferrocarril más difícil del mundo.
Une autre vision de l'actualité à l'étranger.
Cette zone est bombardée par l'aviation israélienne.
Faites le tour de la planète avec Jean-Marc Four.
C'est ce qu'on appelle maintenant les réfugiés climatiques.
18h15. Et pourtant elle tourne.
France Inter présente. Copie conforme, le nouveau film d'Abbas Kiarostami avec Juliette Binoche et William Schimmel. Un village en Toscane, un homme, une femme, une rencontre. Copie conforme, en compétition officielle au Festival de Cannes, le 19 mai au cinéma. Retrouvez Juliette Binoche dans Nonobstant, aujourd'hui à 17h. France Inter.
La différence.
Il est 15h04 à la Basse, j'y suis, Daniel Mermet.
Oui. Allô, Daniel, ici, Rouen, il est 19h dimanche soir, nous sommes plus d'une centaine à demander, à exiger devant le commissariat de police de Rouen, sa ville d'origine, que M. Lee, qui vient d'être transféré ce matin à Orly, soit libéré et non pas expédié manu militari comme c'est en train de se faire, comme ça a failli se faire. Nous espérons bien que non, mais nous résisterons jusqu'au bout.
Libérez Monsieur Lee.
J'ai écouté tout à l'heure, il y a quelques minutes, le début de l'émission, et notamment le témoignage de cette dame, de cette femme qui racontait l'histoire du gamin jeune polyhandicapé qui a été expulsé. Il se trouve que j'avais suivi ce qui se passait dans le cadre du réseau Éducation sans frontières, une expulsion d'une ignominie. Qui dépasse l'entendement. Mais cette dame, elle a dit, à un moment, elle dit, pour faire du chiffre, on expulse n'importe comment. Non, on n'expulse pas n'importe comment, je crois pas. Les expulsions, elles sont méthodiquement préparées, militairement préparées. Moi, j'avais des voisins qui étaient tchétchènes. Là aussi, il existait les certificats médicaux. La préfecture de mon département, elle était informée de tout ce qui se passait. Là aussi, il y avait des recours devant les tribunaux. Au petit matin, là aussi, des dizaines de gendarmes mobilisés pour venir arrêter la famille. Un mercredi matin, le jour des enfants, là aussi, on a essayé de protester dans le vent, dans le vide. Ça n'a pas été très facile, à part le réseau Éducation sans frontières, d'être soutenu. Il y avait 5 gamins, Daniel Mermet, 5 enfants tchétchènes. Ils ont été expulsés par avion spécial. En moins de 30 minutes, les gendarmes avaient mis l'ensemble de leurs affaires dans des sacs poubelles. On les a vus passer devant nous, embarqués, séparés, les enfants séparés des parents, de la maman, pour être emmenés à l'aéroport de Doltavo. Là aussi, c'est une ignoble, une monstrueuse expulsion. Il y en a sans doute eu des dizaines comme cela en France. Cette politique-là, c'est une politique monstrueuse.
Ouais, bonjour Daniel Mermet. Bah écoute, ici c'est Amandine de Sèze. Je suis au croisement de la rue de la Convention et de la rue de la Croix-Nivert. Et il y avait ce matin à peu près, je sais pas, je dirais 30 personnes maximum, dont des enfants dans des couffins, qui dormaient par terre sur le trottoir à ce croisement-là. Et il y avait juste peut-être 15 ou 18 policiers autour d'eux, de la police, hein, voilà. Et là, il y a à peu près 10 camions de gendarmerie qui viennent d'arriver. Et ils disent que soi-disant, ils vont les conduire jusqu'au métro le plus, comment ils ont dit, gentiment possible. Voilà, et ben moi je laisse toutes mes coordonnées, vous pouvez me joindre si vous voulez, je vais être témoin de cette histoire. Et s'il vous plaît, envoyez un reporter ici, quelqu'un pour filmer ce qui se passe, parce que moi j'ai peur.
Salut Daniel et les AMG, c'est Mathieu Delaude. Pour signaler qu'actuellement, lundi 17 mai, une délégation de la Confédération Paysanne occupe les locaux de la DSV de l'Aude pour manifester contre la vaccination obligatoire contre la fièvre catarrhale ovine et demander l'arrêt des poursuites de nos camarades éleveurs ayant résisté à cette vaccination obligatoire. Pour plus d'infos pour les AMG, allez sur le site du collectif anti-FCO, www.collectif.org, et on attend tous les gens de Carcassonne disponibles pour nous rejoindre devant les locaux de la DSV, devant la cité administrative de Carcassonne, aujourd'hui lundi 17. Salut.
Bonjour, j'écoute ces informations là ce matin, j'entends parler des producteurs, des maraîchers, des agriculteurs qui ne peuvent pas vivre de ce qu'ils gagnent, effectivement, avec les grandes surfaces. Bref, alors moi, c'était juste pour dire que tous les maraîchers, tous les éleveurs, tous les agriculteurs, les laitiers, tous, arrêtez de vendre aux grandes surfaces. Hein. Vous prenez vos cagettes de légumes et vous allez les vendre directement au particulier, du producteur au particulier, directement. À 80 centimes la salade au lieu de 1 euro dans le supermarché, ça revient directement pour vous et basta, quoi. Je crois qu'il va falloir y penser sérieusement à agir comme ça. Il faut arrêter de se plier aux demandes du gouvernement et des grandes surfaces.
C'est à propos du Japon et d'Okinawa. Je pense que vous n'oublierez pas de mentionner le film de Chris Marker. Il avait sorti il y a une dizaine d'années. Puis même faire une petite émission sur ce Chris Marker d'ailleurs. Bon ben salut, à bientôt.
Bonjour, c'est Marie de Chambéry. Je réagis juste à un message qui disait que le Japon qu'on découvre avec l'Abashirishui n'est pas celui des mangas. Et je voulais dire que c'est pas celui de certains mangas, mais que dans beaucoup de mangas, on l'entrevoit très bien. Quand on lit Aile, on voit bien une société où la jeunesse est complètement désemparée et complètement sous pression. Quand on lit GTO, on voit des adultes déresponsabilisés, qui ne savent pas comment s'occuper de leurs enfants, qui sont tout pris par le travail ou alors mal vus parce qu'ils sont au chômage, qui sont... Enfin, on voit une société sur le déclin où les jeunes tentent de se relever. Quand on lit... Tiens, même Bleach. Bleach, un manga a priori plutôt marrant, dans lequel les personnes un peu différentes sont complètement stigmatisées, mal vues. Voilà. Donc là, c'est juste trois exemples que j'ai sur mes étagères, mais on peut en trouver plein d'autres, hein, qu'on regarde 20th Century Boys, qu'on regarde... On peut en trouver. Les mangas, c'est peut-être pas visible tout de suite pour le lecteur occidental, mais c'est souvent une sacrée critique de la société.
Bonjour tout le monde. Bon, je trouve que vous êtes très courageux de faire des incantations par un prêtre japonais. Moi, je me souviens de ce film où il y avait des démons qui tournaient autour d'un bonhomme et qu'on l'avait peint de, j'appelle ça des hiéroglyphes, mais en fait de symboles pour le protéger justement de ces démons. Et manque de peau, le prêtre ou les prêtres avaient oublié ses oreilles. Et évidemment, les démons sont arrivés et l'ont entraîné en lui arrachant les oreilles. Donc je trouve que vous êtes un peu léger de faire confiance à ce brave garçon. Il suffit qu'il oublie une virgule, un mot, une intonation pour qu'un démon s'y glisse et vienne au mieux vous arracher les oreilles. Au pire, je préfère ne pas y penser. Peut-être nommer Sarkozy le prochain PDG de Radio France, etc. Allez, bonne journée, au revoir.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, attentifs et prévenants et engagés et malins comme tout. Merci à tous. Aujourd'hui, on continue au Japon. Et cette fois, on va à Nagoya. Nagoya, une grande ville du Japon, clinquante, riche en apparence, parce que là aussi, un peu comme partout à travers le pays, la crise frappe et frappe fort, précarité, soupe populaire. On va assister à ces scènes auxquelles on est habitué maintenant, qui sont banalisées en France, les restos du cœur dans la rue. Précarisation galopante au Japon. Et chômage aussi, même si le taux est relativement, par rapport à nous, réduit. Il est autour de 5%, officiellement, bien sûr. C'est un déclin depuis une vingtaine d'années maintenant. Le Japon a pris un toboggan. Et au moment où il se croyait un peu sorti d'affaires, enfin, ça allait un petit peu mieux, eh bien, il y a la deuxième crise, celle de 2007-2008, qui a à nouveau frappé. Mais alors, on sera consolé parce qu'on va rencontrer Sashima. Sashima, c'est la reine des précaires, mais c'est une chanteuse, c'est la star des précaires. Et puis, on découvrira aussi, aujourd'hui, ce que sont les cyber-réfugiés. Ces cybercafés où les précaires, précarité oblige, on va se réfugier en matant des films toute la journée, toute la nuit sur Internet, en attendant d'être appelé pour un boulot qui durera peut-être une heure, deux heures, trois heures. Et c'est des nouvelles conditions de précarité dans ce pays et dans cette ville, mais parmi d'autres. Autre chose tout à fait différente, vous l'avez peut-être appris, Noam Chomsky a été interdit d'entrer en Cisjordanie. Il venait hier de Amman, en Jordanie, et il s'est présenté avec des amis et sa fille à la frontière avec la Cisjordanie, et il a été interdit d'entrer par les autorités israéliennes, par le ministère de l'Intérieur israélien. Et donc Chomsky est reparti sur Amman. Il avait pour projet de donner des conférences, dont une à l'université de Bir Zeit, c'est-à-dire à Jérusalem-Est, et de rencontrer un certain nombre de personnalités et d'acteurs de la vie politique et sociale en Cisjordanie. Donc pour l'instant, la situation en est là. Entrée interdite à Chomsky en Cisjordanie sur ordre des autorités israélienne. Vous pouvez voir d'autres informations sur le net, et notamment en allant sur le site du quotidien israélien Haaretz. On espère que Chomsky, qui vient en France, vous le savez, du 28 au 31 mai à Paris, sera un petit peu mieux accueilli. En tout cas, il le sera par nous, puisque nous nous associons aux différents, là-bas si j'y suis, s'associe aux différentes conférences et débats que donnera Chomsky. Et pour l'occasion, on va faire une série de projections spéciales de notre film Chomsky et compagnie, à différentes dates autour de cette venue de Chomsky. Vous pourrez voir tout ça sur le site de là-bas si j'y suis, la-ba.org. Mais départ pour Nagoya, départ pour le Japon. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis. Au 01 56 40 37 37.
Amis de Lille, Cambrai et du Nord, bonjour. C'est donc ce soir, lundi 17 mai à 20h, que les amis de la basse J'y suis reçoivent Maître Leïla Bachir Chérif, qui viendra nous parler de la réforme de la justice. Venez donc nombreux ce soir, 20h, au café L'Imaginaire, place Louise de Bétigny, dans le Vieux-Lille.
Salut aux éditeurs du Pays Basque d'ailleurs. Juste un petit mot pour vous informer que la direction du magasin Castorama d'Anglet a été condamnée à verser 25 000 euros à un salarié sympathisant de la CGT pour licenciement abusif. Et oui, la lutte des classes continue, que ce soit à Casto ou ailleurs. Ciao.
ありがとうございました。お忘れ物のないようご注意ください。列車とホームの間は広く空いております。足元にご注意ください。
Nous avons l'honneur de rencontrer un monsieur en short avec des chaussettes Adidas, des baskets, des lunettes, une cravate.
Et le maillot de l'équipe de foot du Japon.
私の名前は片桐豊と申します。日本軍海兵隊なるものを、まあ、軍隊ですが、作りました。
Je suis donc un militaire japonais. J'ai donc créé à moi-même l'armée japonaise.
Ah bon ?
Donc vous avez reconstruit l'armée japonaise ?
今のところ私一人であります。法的根拠と言いますのはハーグ条約、まあ陸戦の放棄慣例に関する条約の、条約の付属書による。
En gros, je suis le seul représentant de cette armée selon divers décrets.
C'est une armée avec un seul soldat et ce soldat, il est devant nous.
C'est le général en chef.
Bon, l'armée fait la guerre. Vous faites la guerre. En ce moment, vous êtes en guerre ou simplement vous vous entraînez ?
La guerre avec la Corée n'est pas finie.
Laquelle Corée ? La Corée du Nord ?
Oui.
Oui.
C'est un sale coup pour la Corée du Nord.
ソビエトと日本国との間には平和条約がまだ締結されていないわけですわな。
Et puis aussi, je suis en guerre avec l'Union soviétique, enfin les soviets, puisque nous n'avons pas de traité de paix.
Vous êtes en guerre avec l'Union soviétique ? Mais ça fait beaucoup de monde, ça. C'est puissant, ils sont forts, les soviétiques. Hein? Et ça, ça veut dire ?
Nihon-gun, l'armée japonaise.
L'armée japonaise est devant nous. Ça, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est l'hymne de l'armée japonaise ?
ここでですか。
はい。
君が弱地よにや地よにさざれ石の岩
どうもありがとう。
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Guy Ventil, Japon, sous un coin du kimono.
Flight number 2, arriving from New York.
Voilà, la distribution de la soupe populaire va commencer sous ce pont d'autoroute là. C'est des petites dames qui vont faire la distribution et les gars attendent, les gens attendent, alignés là, avec leur parapluie. Il y a un gars avec un haut-parleur et là-bas il y a un petit stand qui recueille les plaintes des gens qui sont dans la merde, quoi. Voilà, ça, c'est des gens qui sont dans la merde. C'est déprimant, ce spectacle-là. Il se généralise. Se généralise au monde entier, c'est devenu banal. Alors, c'est quand même relativement nouveau pour le Japon. Mais ce qu'on nous dit, c'est que le Japon se normalise. La normalisation, c'est-à-dire les inégalités, c'est-à-dire la précarité, c'est-à-dire le chômage, les sans-abri, c'est-à-dire l'angoisse, c'est-à-dire le bricolage. Et ça, le Japon n'y était pas préparé, quoi.
De devenir un pays post-industriel comme les autres.
Voilà. Eh oui, un pays post-industriel pour les autres, comme les autres. C'est vrai, on est bien loin du fameux miracle japonais, et on trouve parfois des gens pour évoquer ce que furent ces années 80 au Japon, ce délire de spéculation dans lequel tout le monde était plongé. C'était une ivresse collective, c'était quelque chose de complètement cinglé. En 1989, la destination préférée pour les voyages scolaires, c'était quoi ? La bourse de Tokyo. On allait visiter la bourse de Tokyo. Tout le monde pariait, tout le monde risquait, tout le monde boursicotait. Et on se racontait qu'on gagnait des fortunes, que n'importe qui pouvait gagner des fortunes. Et puis, il y a eu une explosion de cette bulle, pas si brutalement qu'on l'a dit, mais aussi inexorablement qu'on le redoutait. La bulle s'est dégonflée lentement et inexorablement, faisant d'abord suffoquer les secteurs de l'immobilier, parce que c'est là qu'on avait le plus spéculé, secteur de l'immobilier et de la finance, avant d'asphyxier toute l'économie du pays. Alors le Japon a mis du temps à s'en remettre avec quelques brèves périodes de rémission avant de replonger l'année dernière dans la crise à nouveau avec une chute considérable du Nikkei et ça c'est un point sans doute important mais surtout en entraînant une pauvreté qui s'enquiste de plus en plus au cœur de la société japonaise. Près de 16% des Japonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. On est passé d'une économie qu'on appelait l'économie de la grande famille. C'était un capitalisme assez particulier, celui du Japon, qui était complètement encadré par l'État. En somme, le Japon était une entreprise, Japan Inc. Et avec l'arrivée du néolibéralisme à l'anglo-saxonne, avec l'arrivée de la dérégulation, est arrivée également la précarisation qui a explosé, notamment dans le travail. Aujourd'hui, le salaire horaire d'un travailleur précaire est inférieur de 40% à celui d'un CDI, d'un actif protégé, c'est-à-dire comme on travaillait avant la crise. Et lorsqu'on est viré de son boulot, on a 3 mois d'indemnité, pas un jour de plus, et surtout, on perd son logement. J'évoquais la crise immobilière, vous savez à quel point les loyers et l'immobilier est cher au Japon, notamment dans les grandes villes. Alors on se retrouve comme ça, on perd tout, on perd le boulot, on perd le logement, et la précarité, c'est l'incertitude, ça on connaît très bien. Vous allez dire une chose en écoutant ce reportage aujourd'hui, vous allez dire souvent, mais pourquoi vous êtes allé si loin, on a ça chez nous. C'est vrai, il y a des différences quand même importantes et inquiétantes. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Nagoya sous un coin de kimono.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qui vous êtes et votre action et votre organisation?
Et 私たちは毎週月曜日と木曜日週2回炊き出しをやっています。団体は
NPO さん、あの笹島共生会という NGO のグループでやってます。
Donc tu sens une ONG qui distribue tous les lundis et tous les jeudis des repas aux sans-abri.
Alors, à partir de 90, le Japon est rentré dans une crise économique grave. À nouveau en 2007 avec la crise Lehman, qu'on appelle Lehman ici, c'est-à-dire nous qu'on appelle la crise des subprimes. À nouveau, le Japon s'enfonce dans la crise. Est-ce que vous avez vu les effets de tout ça dans la population qui s'adresse à vous ?
私たちの考えでは、そのリーマンショック以前の、失業ホームレスの人たちを、オールドホームレスと言ってます。そして今回の場合はニューホームレスという分け方をせざるを得ないんですね。
Ici, nous appelons les sans-abri post ou pré-crise 2008. Ce ne sont pas du tout les mêmes.
Ah, il y a ceux d'avant et ceux d'après cette crise-là.
そうです、そうですね。はい、ですから企業の倒産とか、あの、回収のような金融機関は倒産しました。それだけですね。
Oui, c'est exactement ça. Dans les années 90, il y a eu des sociétés qui ont fait faillite et donc des gens qui se sont retrouvés sans emploi, certes. Mais dans la crise de 2008, ça n'avait rien à voir. Parce que ce sont les derniers filets, c'est vraiment les travailleurs qui ont subi cette crise. Les derniers filets de sécurité n'ont pas fonctionné, il n'y en avait pas.
Alors, là, on est à Nagoya, au cœur industriel du Japon. On est sous ce pont. Il y a des gens qui attendent dans la pénombre. Il y a quelques loupiottes qui sont allumées, quelques éclairages qui sont allumés, et on attend la soupe, on attend la distribution de soupe. Après avoir mangé, où vont-ils ?
Moto, 自分のいた野宿の場所です。公園、ビルの谷間、そういうところです。
Dans les parcs, sous les ponts, dans les entrées d'immeubles.
お待たせをいたしました。お待たせいたしました。それでは下から配食を始めます。今日は外の方で食事をそれぞれ左右。
Ça y est. Le signal est donné. Et tous ceux qui ont un numéro se pressent auprès du premier monsieur là qui prend les noms et ils courent pour être servis.
Les personnes qui ont le numéro 1 à 20 sont prêtes à se présenter.
Là, le monsieur est le numéro 14. Il va prendre sa place dans la queue.
Oui, 21番から30番までの方をお待たせしました.
Les personnes 21 à 30, aujourd'hui nous servons une omelette avec du poulet chaud sur du riz. C'est chaud, alors profitez-en.
Et là on voit tous ceux qui n'ont pas encore été appelés, qui ont leur petit papier à la main, comme d'abord pour quelques tristes comme ça, et qui attendent d'être appelés à leur tour. La queue s'allonge au fur et à mesure.
Ah, les Restos du Cœur version japonais. Organisé, cadré, et aussi avec une volonté d'assurer, mais allez, vite fait, quoi, de dissimuler aussi, de faire disparaître un peu ça. Alors qu'il y a quelques années, les témoignages que nous avons pu avoir nous indiquent qu'on voyait cette pauvreté apparaître, se manifester. Et puis depuis un certain temps, on dissimule, on expédie tout ça. La ville où nous sommes, Nagoya, est la deuxième ou troisième ville la plus importante du Japon, vitrine, prospère, clinquante du Japon, et aussi la principale ville de l'industrie japonaise. Hein, c'est le siège social des grandes usines du groupe Toyota, la première entreprise du Japon, premier constructeur automobile mondial, dont on va parler évidemment dans la Pacifique, est implanté près de la ville, l'électronique, l'aéronautique, les industries lourdes, le raffinage et la sidérurgie sont également très présentes dans la région, si bien que l'activité essentielle de cette ville, et ben la voilà. Et c'est sans doute une des capitales ou la capitale de ce qu'on appelle les salariés. Les salaryman, c'est-à-dire les hommes salariés, enfin les salariés. Vous savez, ces caricatures du Japon, ces gars en costard, tous le même, la cravate, la petite serviette, l'air absolument impassible, et qui attendent la fin du boulot pour aller boire des coups de saké, et rigoler, se marrer, et faire la fête, au moins se détendre. Ça, c'est les images qui commencent à passer, quoi. C'est presque les images déjà
des jours heureux parce que, eh bien, je le disais, la pauvreté gagne, la précarité surtout gagne, les emplois précaires, les friteurs, on en parlera, ce sont les friteurs, c'est un mot qui a été une soudure entre le mot allemand Arbeiter, friteur et free, voilà, c'est-à-dire le boulot précaire. Vous allez dire, mais pourquoi aller si loin? On a les mêmes à la maison. Sauf que, voilà, c'est quand même relativement nouveau pour le Japon. Deuxième puissance économique du monde, mais pour combien de temps face à la Chine qui monte, qui monte, qui monte?
Konnichiwa. Bon appétit.
C'est quoi, c'est du riz?
Donc il y a beaucoup de riz et peu d'omelettes et peu de poulet.
Ça fait combien de temps que vous venez ici?
Cela fait à peu près un an que je viens ici. Avant, j'étais donc intérimaire. Je travaillais pour un sous-traitant de Toyota. Tout d'abord, je n'avais absolument pas de contrat, mais j'avais travaillé 6 mois. Et au mois de novembre, la société a eu moins d'activité. Et au mois de décembre, on m'a licencié, on m'a viré. L'inconvénient d'être intérimaire, j'avais un tout petit loyer, un petit peu plus de 600 euros. Quand on est intérimaire, quand on perd son travail, on perd aussi son logement.
Et donc vous, à peu de choses près, en un mois, vous vous êtes retrouvé sans boulot et à la rue, si je comprends bien.
Effectivement. C'était vraiment dur, vraiment très dur à ce moment-là. C'était un petit peu la fatalité. Je m'y attendais parce qu'il n'y avait plus d'heures supplémentaires. Depuis un moment, même ceux qui étaient employés en CDD et en CDI, certains avaient déjà été mis à la porte. Donc que mon tour arrive en tant qu'intérimaire, c'était la fatalité.
Et vous avez pu prévoir autre chose? Vous avez essayé de trouver un autre boulot? Racontez-moi un peu comment on fait, parce que la fatalité, d'accord, mais...
Il faut pas se leurrer. Si ici, dans le département de l'Aichi, où il y a tant d'activités, il se passe ça, c'est qu'ailleurs, c'est la même chose, donc ça sert à rien d'aller chercher ailleurs. J'ai quand même demandé évidemment dans la boîte d'intérim si même dans une autre région il y avait une chance quelque part. Ils m'ont dit non, si Toyota chute, ça veut dire que tout chute. Et la preuve, j'ai pas trouvé, vous avez raison.
Et alors comment vous voyez votre avenir maintenant?
Je n'ai pas la possibilité de penser à l'avenir. Je vis tellement, tellement au jour le jour. Le présent me prend tellement. Je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir.
C'est quoi votre prénom?
Taka.
Taka, je m'appelle Taka.
Et vous avez quel âge, Taka?
47.
J'ai 47 ans.
Bon, bah, bon courage.
Hey.
Bonne chance.
Hey.
Voilà, il reprend sa place. Taka reprend sa place dans la queue pour être... au deuxième service, et en même temps qu'il avance vers la queue, bah, tous les autres qui se sont mis derrière lui, c'est-à-dire quoi, 300 personnes?
Voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première distribution. On te remplit ton bol, alors après tu vas manger, tout en faisant la queue pour remplir à nouveau ton bol.
S'il en reste.
おととしの8月頃まで工場で派遣の社員をしていました。
Jusqu'à il y a 2 ans, je travaillais dans une usine pour voitures.
Toyota keiretsu no kōjō de shigoto o shite imashita.
Chez un sous-traitant Toyota.
Alors, on vous suit pendant que vous allez vous faire servir un deuxième plat. Arigato. Voilà, c'est le bouillon. Hop. Et tu vois, et après, on va manger par là. Ça vous embête de discuter pendant que vous mangez ? Donc, c'était encore vous aussi, vous êtes un des dégâts collatéraux, comme on dit en termes militaires, de la chute de Toyota, de la crise Toyota.
Oui,
exactement. On a bien vu la baisse de production et puis la baisse d'activité. Et dans ces cas-là, on sait très bien que ce sont les intérimaires qui trinquent les premiers.
Mais est-ce qu'on imaginait que Toyota flancherait comme ça ?
Non, je m'y attendais pas. C'est vrai que j'ai été choquée de me dire que cette grosse société Toyota peut un jour subir cette situation. Je pense que ça doit être dur pour les patrons de Toyota et pour les grands parce que on les critique énormément et c'est vrai que plus la société est grosse, plus certainement ils cachent des choses, mais quand même leur situation ne doit pas être agréable aujourd'hui.
Vous plaignez le monsieur Toyoda, le patron de Toyota, avec vous qui êtes là, la soupe populaire qui est en train de se finir, ils sont en train de ramasser les dernières tables, les derniers bols, on vous a fait traîner un peu. Vous plaignez les patrons de Toyota ?
Oui,
je l'ai plaint parce que c'est un descendant de la famille du fondateur de Toyota et il va à l'étranger, on le critique énormément sur sa façon de faire. Je le plains. Parce que voyez-vous Toyota, on dit Toyota, mais est-ce que vous savez que la ville de Toyota porte le nom grâce à la société? Et nous, Nagoya, la société qui représente le plus l'industrie, c'est forcément Toyota. Et même au sein du Japon, Toyota, c'est la grande entreprise et tout le monde aime et tout le monde roule en Toyota.
Et vous allez faire quoi ce soir maintenant ?
Je vais
retourner à pied jusqu'à la gare
Je vais
chercher un endroit près de la gare, à l'abri de la pluie, à l'abri du vent, et m'y installer. Il y a une personne très connue et très célèbre au Japon qui a dit « Être en vie, c'est déjà pas mal. » Et c'est ce que je crois aussi.
Voilà, voilà un exemple qui devrait être mis en avant par Madame Parisot. Voilà quelqu'un qui n'est pas du tout ingrat et pour qui Toyota, la marque Toyota, eh bien, c'est la fierté nationale. Et Akio Toyoda, le PDG qu'on a vu, PDG de Toyota, qu'on a vu ces derniers temps s'incliner devant les 10 millions de véhicules que Toyota a dû rappeler pour des problèmes techniques, eh bien, Toyota annonce des bénéfices. Le retour des bénéfices chez Toyota, il faut rappeler que c'est au prix de licenciements massifs. L'an passé, le groupe a congédié des milliers et des milliers de salariés dans le monde au plus fort de la récession et les bénéfices sont revenus, mais pas seulement à cause des activités dans l'automobile. Nous sommes à la fin de cette soupe, cette distribution de soupe à Nagoya, Japon.
Il y a les petites dames qui ont fait la distribution, là, qui continuent de s'égayer. T'as vu comme c'est propre. Ça a été...
Ils ont passé la balayette après.
Ils ont passé la balayette. Chaque SDF lave son bol, tout est rangé, impeccable, discipliné, organisé. C'est terminé, c'est plié. Et les petites dames qui ont fait la distribution rentrent dans le car. Puis voilà, c'est terminé.
Et voilà, on est plus, il n'y a plus que nous maintenant.
Il n'y a plus que nous. Nous, on sait où on va dîner. On a des idées sur l'endroit où on va dormir. On sait du moins aussi où on va dormir. On a peut-être décidé où on va dîner. Sauf que eux, ils se sont égayés. Je sais, on ne sait pas du tout où ils vont dormir, tous ces gens-là. Là.
Qui à la gare, qui sous un pont.
Ils ont des planques, des trous, des dessous, des machins dans cette ville.
Il y a beaucoup d'entrées, de métro et surtout des entrées, des galeries marchandes souterraines dont les boutiques sont fermées le soir, qui sont des grands passages où les sans-abri peuvent s'installer. Aussi.
Là, on est à Nagoya. C'est une des capitales industrielles du Japon et c'est une ville rutilante, pimpante, clignotante, riche, avec des galeries marchandes partout, des Louis Vuitton, des machins et des trucs. Et c'est aussi une ville où il y a pas mal de plus en plus de précaires, de gens en difficulté, comme un peu partout au Japon. Et là, nous, on a laissé tomber tout le luxe et le clinquant et le bling-bling de cette ville. Et on se trouve, de l'aveu même de ceux qui nous ont invités, dans un couloir puant et sale. Et c'est eux-mêmes qui caractérisent l'endroit où ils vivent de cette façon. Et qui sont c'est nos hôtes? Eh bien, c'est Egule Sasashima, qui est une chanteuse, la diva des précaires, et son manager, qui est un poète et qui est un syndicaliste, Yutaka Onishi, voilà, qui est en face de nous. Alors, c'est effectivement grand comme une chambre à coucher. Les peintures n'ont pas été refaites depuis un certain temps. Et au mur, il y a des lambeaux de papier, journal. Et puis voilà, c'est là qu'on vit. C'est un endroit un petit peu bohème. La bohème tendance un peu pauvre. C'est pas la bohème riche, c'est la bohème pauvre. Et voilà où nous sommes.
Long time ago, movie. I like big movie. Da la ba da ba la ba da da ba la ba la ba 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 da ba la ba da da ba la ba la da la da ba la ba da da ba da ba da da la ro da la ro ro.
Mais on veut des chansons japonaises, nous les chansons françaises on les connaît déjà nous.
Yes, Japanese song. Yes. Homeless people song.
La chanson pour les sans-abri.
La chanson pour les sans-abri. Thank you. Aokan. Aokan, Aokan. Aokan とは空の下のことです。Under the sky。ホームレスさんは青缶。ホームレス is under the sky。ホームレスさん。夏はベタベタして暑くて枯らさすし、冬は想像を絶する寒さで死者が何人もします。デッド。死者が何人も出ます。名古屋にはホームレスさんがまだたくさん。Many, many people。ホームレス is many, many people。笹島。青缶やろ in Japanese。おいら悲しき青缶暮らし、コンクリートに段ボール敷いて、話し相手は夜空の星よ。仕事探してさっさしまがよい、これがさっさしま青缶やろ。雨に降られて青缶暮らし、ビニールテントで雨音聞いて、夏の暑さは我慢もするけど、冬の寒さと冷たい雨には涙ポロリの青缶やろ。仕事にあぶれて青缶暮らし、少ない仕事と死による追い出し、少年たちの心なき襲撃、耐えてはいるけど泣き寝入りはせぬ、これがさっさしま青缶やろ。ほう、メルシーボーク、 Thank you. フィニッシュ。
Ouais.
Une autre.
Allez, viens donc, une fois.
Shigoto sae aria, koko wa tengoku.
Si juste il y avait du boulot ici, ça serait le paradis. Koko wa tengoku. Ça serait vraiment le paradis.
Koko wa tengoku. Sasashima yoi toko, ichido wa oide. Takibi kakomeba, minna kyodai. So! 今日は仕事ないけど明日はある、明日はある、今日は食えないけど明日食える、明日食える。ささしまよいとこ一度はおいで、仕事さえありゃここは天国、ここは天国。Merci beaucoup. C'est bon. Comment
allez-vous? Igoulé, Sasashima, on veut savoir comment vous en êtes arrivé là à chanter, à devenir la diva des précaires.
Naze utau koto ni narimashita. Utaitai kara desu. Uta ga ichiban suki da kara desu. Kekkon yori mo shigoto yori mo, kekkon yori mo shigoto yori mo, kodomo yori mo uta ga suki desu. Kodomo shinde shimaimashita.
Parce que j'aime la chanson plus que tout. Parce que plus que mon travail, parce que plus que mon mariage, parce que plus que mon travail, j'aimais la chanson. Peut-être même plus que mon enfant. Je dis ça parce que malheureusement, il est mort. C'est donc pour ça que je chante.
Et alors, dans quelle occasion vous chantez ?
Je chante dans la rue.
Vous chantez dans la rue, ici à Nagoya ?
Ah,
d'accord.
Et juste derrière la gare.
Toute la journée. Et ça marche ?
Je ne suis pas connu, mais... 知ってる人は知ってます。
Je ne suis peut-être pas quelqu'un de très très connu, mais ceux qui me connaissent me connaissent, et puis j'ai un peu de presse.
Et est-ce que les précaires vous soutiennent ?
Je ne sais pas s'ils m'aiment, mais ils applaudissent, ils me disent « Pourquoi les tarés ?»
Alors, il faut parler avec le poète, parce que c'est vous qui êtes l'auteur des paroles. Et qu'est-ce que ça raconte, les chansons là, que vous écrivez ?
Sur les travailleurs journaliers, sur les travailleurs précaires, et puis sur des gens qui ont voulu obtenir leur salaire et qui se sont fait descendre pour ça.
Qui se sont fait descendre ?
Oui, qui s'est fait tuer pour...
3 de...
Trois se sont fait tuer en demandant leur travail.
Quand ?
Il y a cinq ans. Oui, c'était des gars qui travaillaient sur des chantiers. Ils ont juste demandé leur salaire, revendiqué leur salaire et ils se sont fait descendre.
Mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano. Internet comique café, 24 heures sur 24, c'est gay comme tout, c'est coloré, c'est jeune, c'est tout ce qu'on veut. Et là, on peut y venir dormir.
On peut acheter des nouilles séchées.
Il y a tout ce qu'il faut. On peut fumer.
Distributeur de boissons.
Ah, jugé par le. Ah, et là, c'est des petites cellules. La vache. Et là, tu peux dormir, regarder ton... Tiens, il y a un gars qui sort de là, tu vois.
Voilà. Les yeux rouges, rouges.
Ah, mais il est éclaté d'un tiers-monde. Donc, c'est des sortes de... Comment on va dire? De dortoirs.
Ben, venez, on va vous montrer déjà les...
D'accord. Voilà une cellule. Il y a un fauteuil en cuir ou en sky confortable. Face à un écran, un grand écran, une lampe, on peut écouter de la musique.
Il y a un petit coffre-fort, t'as vu, pour pouvoir mettre tes économies si tu en as.
Voilà.
Et le siège est inclinable, nous a-t-elle expliqué.
Donc là, je vais pouvoir me reposer, regarder ce que je veux, machiner. Mais attention, c'est une intimité très très limitée. Voilà, une petite cellule comme ça, avec un petit verrou. Voilà. Et alors là, on peut y venir pour une heure, une nuit ou plus.
Oui.
D'accord, il ne faut pas faire trop de bruit parce qu'il y a des gens qui se reposent. Tu peux mater les mangas pendant des heures. On passe entre les cellules. Je dis cellules, mais c'est vachement joli. C'est un peu le style Ikea. Alors là, il y a des gens qui sont, une personne. Là, il n'y a personne.
Donc là, c'est complètement plat.
Ah oui.
Donc on peut s'allonger et dormir.
Ah, on peut dormir par terre, quoi. C'est un tatami.
Oui, effectivement, on retire ses chaussures et c'est un matelas qui est au sol.
T'as un écran, t'as une télé, t'as ton petit coffre-fort, ta lampe, ton machin, etc. Mais alors, mademoiselle, il faut pas faire trop de bruit.
Oui, il vaudrait mieux, ça serait gentil.
C'est ça,
mais
parce que moi j'ai un problème si je vais ici, c'est que je ronfle.
Tu vas les réveiller.
Mais il y en a beaucoup qui ronflent, tu sais.
C'est pas gênant, je pourrais venir quand même.
そうですね。
はい、いいです
Mais est-ce que vous avez des gens qui restent longtemps, qui restent plusieurs jours ?
Oui, bien sûr, il y a des gens qui restent plusieurs jours.
Combien de cellules vous avez comme ça au total ?
110 cellules.
110, ça coûte combien alors ? 1600 ?
1600 pour 10 heures, c'est le tarif.
1600 pour 10 heures pour une personne. 12 heures, 1890. 12-13 euros pour la nuit, quoi, en fait. Ça veut dire.
13 euros pour la nuit. C'est pas cher pour le Japon. Mais tu dors à quatre pattes. Voilà, tu dors assis, quoi.
Notre ami, il pense que c'est bien qu'on essaye de tous se mettre là-bas, comme ça, on l'essaye pendant une heure. De toute façon, c'est une heure par personne. Le prix, il est fixé par personne. Notre ami pense qu'on devrait essayer une heure au moins. On fait son interview là-bas.
Ah oui, c'est pas mal.
Il a passé la nuit, remarque.
C'est pas mal, c'est une bonne idée. On va passer une heure dans un internet café à Nagoya. C'est assez hallucinant hein, comme ambiance, parce que c'est tout gentil, tout bisounours.
Tout aseptisé, ouais.
Tout est prévu, les petites barquettes, les petits machins, tout ce dont tu as besoin, envie. Mais c'est très, 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 très formaté.
La Joël Gac qui est là avec ses petites savates, son petit chausson, un costard-cravate de jeune Salah Liman, qui est en train de boire son café en regardant les rangées de mangas qui sont sur les murs. Pendant que ce temps-là, il y a Matrix qui passe sur trois écrans en même temps.
Ah, il faut enlever les chaussures du coup.
C'est une nouvelle formule d'usage de la ville et du temps. Mais ce qui se passe aussi maintenant, c'est qu'avec le travail en miettes, ce qu'on appelle le travail en miettes, c'est-à-dire le travail de quelques heures par-ci, quelques heures par-là, des petits boulots, il faut sauter tout de suite sur le boulot. Donc là, avec ces pioles-là, eh ben, t'es tout de suite disponible, quoi. Si tu as un boulot régulier, tous les jours, tu fais ton itinéraire de 1 heure le matin, 1 heure le soir pour rentrer à la maison, voilà. Ça, c'est régulier. Mais maintenant que le boulot est en miettes, ben, il faut des réponses à cette précarité, à ce côté imprévisible du temps, de l'emploi du temps de chacun.
C'est les logements précaires pour les boulots précaires.
C'est ça. Logement précaire pour boulot précaire et de plus en plus précaire et de plus en plus précaire. C'est vraiment...
C'est le paradis de Laurence Parisot.
Ouais, ouais. C'est le rêve. On est dans un des rêves de Laurence. Elle en a plusieurs. Mais ça, c'est un des rêves de Laurence. Pour ce qui concerne l'hébergement, je rappelle que Laurence se représente au mois de juillet au MEDEF.
Japonais. Oh ! International.
Et l'international. Ah oui, l'international.
International.
Ah oui.
Et japonais.
La
dernière soirée, ah, oui. In Japanese. Ah, te... I'm sorry. Japanese international,
né? Bon, c'est la version japonaise. Sake, merci à tous. C'était un reportage avec Guy Van Til, traduction Sanaï Lefebvre. Merci à Edboulé, Sasashima, Ataka et à Azaman qu'on retrouvera. Merci à Nanako Ibana, Yutaka Onishi. Demain, on ira à Toyota. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Benjamin Dagatinet, Guillaume Lacroux, Koy Nguyen et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission. Assisté d'Agnès Lebot et Céline Rouzet. Attends vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Ok, on y retourne, on parle mise en relation avec des partenaires pour EDF Pro. Luc.
En cabine.
Nat.
Au micro.
Ok, on envoie.
Quand on veut refaire l'isolation ou le chauffage de son local pour le rendre plus économe en énergie, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Alors EDF Pro vous conseille et vous propose une mise en relation avec des partenaires qualifiés pour réaliser vos travaux.
Top numéro.
Renseignez-vous au 0810 333 776. EDF, changez l'énergie ensemble.
Et la mention.
Tout de suite, prix d'un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
Ça me va, c'est clair, très EDF Pro.
Demain, la suite de la balade au Japon à 15h dans la base. J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bois. Salut.
14 enfants âgés de 12 à 13 ans ont été légèrement blessés ce matin dans un accident de la route dans le Gers. Leur minibus scolaire a percuté une voiture. Trois d'entre eux sont hospitalisés. Le plus gravement atteint souffre d'un traumatisme facial. Le conducteur de la voiture est également blessé assez sérieusement. Les élèves sont scolarisés au collège de Saint-Mathan. Des déclarations fantaisistes et totalement irresponsables. C'est ainsi que le Quai d'Orsay qualifie les propos tenus par un ancien sous-directeur de la DGSE, Pierre Sirami. Il affirme que Clotilde Reiss a travaillé pour la France en Iran, qu'elle collectait des informations pour la DGSE. La jeune femme l'a, elle aussi, toujours démentie. Elle a été retenue pendant près de 10 mois dans ce pays avant d'être libérée ce week-end. Le statu quo en Thaïlande, plusieurs heures après la fin de l'ultimatum fixé par l'armée, l'assaut n'a toujours pas été lancé contre les chemises rouges retranchées dans le centre de Bangkok, mais la tension reste très forte. Plusieurs centaines de personnes âgées, femmes et enfants, se sont mises à l'abri dans un temple bouddhiste. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Pologne menacent les archives du camp d'Auschwitz-Birkenau. Le site de l'ancien camp d'extermination nazi a été fermé au public et le personnel réquisitionné pour transporter dans les étages du musée les documents et objets entreposés au rez-de-chaussée. La rivière Sola, proche du camp, menace en effet de déborder. Les inondations ont fait 2 morts et 1 disparu dans le pays. Toujours aucune trace de l'épave de l'Airbus Rio Paris qui s'est abîmée en mer en juin dernier. Depuis jeudi dernier, les 2 véhicules sous-marins déployés ont parcouru 500 km en 6 plongées, mais ils n'ont rien trouvé pour l'instant, selon le dernier point de presse du Bureau d'enquête et d'analyse. Une semaine après la mise en place d'un plan sans précédent pour sauver l'euro, les grands argentiers de l'Eurogroupe se réunissent à nouveau à Bruxelles pour tenter de freiner la nouvelle chute de la monnaie. Les ministres des Finances sont réunis depuis 1 heure environ pour discuter d'éventuelles mesures à prendre. La monnaie a atteint son plus bas niveau depuis 4 ans. Entre 3 et 5 millions de Français entretiennent leur corps dans les salles et clubs de remise en forme, des lieux où la sécurité et l'hygiène laissent à désirer, selon la Commission de sécurité des consommateurs. La Commission suggère au pouvoir public d'élaborer un modèle type de règlement intérieur et attire l'attention des parents. Il y a en effet des risques à laisser des adolescents en pleine phase de croissance, utiliser certaines machines et manipuler des poids trop lourds. Et puis Raymond Domenech a finalement tranché. Les 6 recalés du Mondial 2010 sont Landreau, Fanny, Rami, M. Villa, Ben Arfa et Briand. Un 7e joueur restera à quai, mais on ne connaîtra son nom qu'au moment du départ pour la Tunisie à la fin du mois. Cela dépend de l'état de santé de William Gallas.
France Inter et Château de Versailles spectacle présente du 19 juin au 28 août les grandes eaux nocturnes. Dans le jardin, la poésie d'une promenade ponctuée de surprenantes créations visuelles et sonores au travers des bosquets et des fontaines mises en eau couronnées d'un feu d'artifice final. Retrouvez les grandes eaux nocturnes de Versailles dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. Le fou du roi. Stéphane Bern.
Demain mardi à 11h, Stéphane Bern recevra Jeannie Longo, Isabelle Gélinas et Jean-Luc Moreau. Rendez-vous une demi-heure avant le début de l'émission dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le fou du roi. Stéphane Bern, du lundi au vendredi à 11h sur France Inter. France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur Inter. Restez avec nous. On retrouve Frédéric Lodéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une émission consacrée aux compositeurs qui ont disparu beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt. Bah oui, par exemple, Juan Crisóstomo de Arriaga, qui n'a même pas atteint 20 ans. Il est mort 10 jours avant. Il est venu d'Espagne, il est venu de Bilbao, il a étudié la musique là-bas, et puis il est arrivé à Paris, où il a travaillé avec de très bons professeurs, un certain Fétis notamment, qui était un critique redoutable aussi. Et Fétis a dit de lui, il a étudié le violon avec un certain Bayo et l'harmonie sous ma direction. Il lui a suffi de moins de 3 mois pour acquérir une parfaite connaissance de l'harmonie. Au bout de 2 ans, il pouvait résoudre à travers le jeu, Je pense que fétiche voulait dire en s'amusant. N'importe quelle difficulté dans le contrepoint et la fugue. Mais oui, mais tout ça a eu un prix, un surmenage. Peut-être que la tuberculose y a mis son sale grain. Et Arriaga est mort, je l'ai dit, en 1826, même pas dans sa 20e année. Eh bien, on va entendre ce Mozart espagnol, comme on l'a souvent décrit, dans, par exemple, son troisième quatuor en mi bémol majeur. Et là-dedans, il y a beaucoup de feu, beaucoup de flammes. Et surtout, dans le presto agitato, on sent une palpitation, quelque chose de très intime, de très fébrile. Oui, je crois que c'est le mot qui convient.